Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La République tchèque s'est dotée d'une nouvelle stratégie de sécurité nationale. La République tchèque est profondément touchée par la mort de 3 joueurs de hockey tchèque en Russie. Les élections en Égypte ont été au cœur de la rencontre entre le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg et son homologue Mohamed Kamel Omr. Le gouvernement tchèque a approuvé ce jeudi une nouvelle stratégie de sécurité nationale de la République tchèque. Comme indiqué à l'issue du Conseil des ministres par le chef du gouvernement Petr Nečas, le gouvernement a procédé à une mise à jour de la stratégie nationale définie en 2003. Le nouveau document accentue, selon le Premier ministre, la sécurité énergétique, notamment celle des gazoducs, des oléoducs et des centrales nucléaires. En même temps, la stratégie s'appuie sur la stabilité politique et économique de l'Union européenne. La mort de 3 grands joueurs tchèques du hockey sur glace, membres de l'équipe de hockey de Yaroslavl, des attaquants Josef Vašíček et Jan Marek et du défenseur Karel Rachunek, qui ont péri mercredi dans le crash des navires russes, a suscité une profonde émotion en République tchèque. Plusieurs événements sportifs ont été annulés. Mercredi soir et jeudi, leurs supporters se sont réunis dans plusieurs villes tchèques pour leur rendre hommage. Au total, 43 passagers sont morts dans cet accident survenu mercredi après-midi à côté de l'aéroport de Yaroslavl, à 300 km au nord-est de Moscou. L'avion de ligne de type Yakovlev 42 transportait l'équipe de hockey sur glace du locomotif Yaroslavl qui se déplaçait à Minsk en Biélorussie pour un match du championnat continental KHL. Les corps des 3 hockeyeurs tchèques devraient être rapatriés d'ici 5 jours. L'Union européenne est prête à apporter son aide à la préparation des élections législatives en Égypte ainsi qu'au décompte des suffrages à l'issue de celles-ci. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, l'a déclaré ce jeudi à Prague suite à son entretien avec son homologue égyptien, Mohamed Kamel Omr. Karel Schwarzenberg a souligné que la décision sur un éventuel concours international apporté à l'Égypte dépendait uniquement des autorités égyptiennes. D'après le ministre Mohamed Kamel Omr, les élections législatives sont prévues pour le mois de novembre. La présence des juges dans tous les bureaux de vote devrait assurer leur indépendance. Tous les partis pourront avoir leurs observateurs dans les bureaux de vote, a également précisé le chef de la diplomatie égyptienne. Les élections présidentielles, quant à elles, devraient se dérouler en Égypte en 2012. Le taux du chômage en République tchèque est resté stable au mois d'août et comme en juillet, s'est élevé à 8,2%. Un peu plus de 480 000 personnes étaient donc sans emploi. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. À Prague, le taux du chômage s'est élevé à 4,1%. À l'autre bout de l'échelle, la région de Most, en Moldavie-Nord, est la plus frappée avec 15,9%. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Daniela, le temps sera nuageux avec des averses dans la partie est du pays. Les températures seront comprises entre 16 et 20 degrés. Un retour du soleil et une hausse des températures sont prévues pour le week-end. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Harozinkova. La suite du programme avec Guillaume Narguet. Je vous retrouve dans la rubrique touristique.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord un drame. Le hockey tchèque, russe et européen, plus généralement, est en deuil. 43 personnes sont mortes mercredi dans un crash aérien à 300 km de Moscou. Dans l'avion se trouvait l'équipe russe de Yaroslavl, dont faisaient partie 3 joueurs internationaux tchèques. 3 joueurs qui, dans un passé récent, avaient été sacrés champions du monde avec la République tchèque. Le drame fait bien entendu la une de tous les médias tchèques dans un pays où le hockey occupe une place à part dans le cœur des gens. Une place à part dans le cœur de ses pratiquants et de ses étudiants, c'est aussi souvent la place qu'occupe la langue française, comme le démontre la tenue du 2e congrès européen des professeurs de français qui a débuté ce jeudi à Prague. Nous entendrons un de ses invités, un professeur de français de l'université de Liège, nous en dire plus sur ce congrès. Et puis la seconde partie de cette émission sera consacrée au tourisme. Aujourd'hui, Magdalena Rozinkova vous emmènera au Café Slavia, un des plus célèbres cafés de Prague, ancien fief de Václav Havel et des intellectuels du pays. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Le Le hockey sur glace tchèque est donc en deuil. Trois de ses joueurs, tous anciens champions du monde, ont péri jeudi, dans l'accident d'un avion de ligne russe à Yaroslavl, à 300 km au nord-est de Moscou. Seuls deux des 45 occupants de l'avion ont survécu. Anna Kubishta.
Ce jeudi matin, les visages des trois hockeyeurs tchèques et de leur coéquipier slovaque Pavol Demitra, idole de Bratislava à Košice, font la une de tous les quotidiens du pays. Karel Rachunek, Jan Marek, Josef Vašiček et Pavol Demitra comptent parmi les victimes de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie aux autres membres du Lokomotiv, l'équipe de hockey sur glace de Yaroslav. Parmi eux, des Russes en majorité, mais aussi des joueurs suédois, polonais ou encore allemands. L'avion devait prendre la direction de Minsk, en Biélorussie, où le Lokomotiv devait disputer son premier match de la saison dans la Ligue continentale KHL. En République tchèque, où histoire oblige, le hockey sur glace occupe une place particulière dans le cœur des gens, c'est évidemment le choc. Récemment nommé à la tête de l'équipe nationale slovaque, l'entraîneur tchèque Vladimír Vujtěk dirigeait la saison dernière encore l'équipe de Yaroslavl, avec laquelle il a remporté par deux fois, dans un passé récent, la Super Ligue de Russie.
Tout cela me touche profondément. Je n'ai pas pu y croire sur le coup et je n'y arrive toujours pas. Yaroslavl est ma deuxième patrie. J'y ai connu mes plus grands succès comme entraîneur. J'avais plein d'amis qui, aujourd'hui, ont perdu la vie. C'est un vrai choc pour moi. Il y a à peine 6 mois de cela, j'étais encore assis avec eux dans ce même avion qui vient de s'écraser.
Tomáš Král est le président de la Fédération tchèque de hockey sur glace. Très ému, il s'est exprimé à la télévision tchèque.
Nous sommes évidemment tous sous le choc. C'était d'excellents joueurs, mais aussi de bons gars avec qui nous avons passé beaucoup de temps. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer cela. C'est une tragédie. Là, je n'arrive pas à réaliser qu'on ne les reverra plus jamais.
L'avion, un Yak 42 qui venait de décoller de Yaroslavl à 300 km au nord de Moscou, n'aurait pas réussi à prendre de l'altitude et aurait alors heurté une antenne proche de la piste, rapportait mercredi l'agence de presse russe Interfax. Il a pris feu après s'être écrasé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes réelles de l'accident, un carburant de mauvaise qualité pouvant également être à l'origine du crash. La Russie est régulièrement le théâtre d'accidents aériens impliquant des avions vieillissants de conception soviétique. Le Yak 42 dans lequel voyageait l'équipe de Yaroslavl avait été mise en service en 1993 et devait finir sa carrière aérienne dans 3 semaines. Le président russe Dmitri Medvedev s'est rendu sur le site du drame en fin de matinée ce jeudi avant de présider une réunion consacrée à la catastrophe. Après avoir réclamé une enquête minutieuse, il a dénoncé l'état du parc aérien en Russie. 4 accidents d'avions de conception soviétique s'étant produits depuis juin. À l'annonce de la tragédie, le match d'ouverture de la saison de KHL à Oufa a été interrompu mercredi. Vladimír Vujtěk.
Le match d'ouverture de la nouvelle saison a été interrompu dans le premier tiers-temps au moment de l'annonce de la nouvelle. Je suppose que les autres matchs dans les jours à venir vont également être annulés.
Et en effet, la Ligue continentale de hockey sur glace qui regroupe les meilleures équipes de Russie et d'autres pays environnants, parmi lesquels la Slovaquie depuis cette année, a annoncé jeudi le report du début de saison au 13 septembre. Les 3 joueurs tchèques décédés étaient tous membres de l'équipe nationale. L'attaquant Josef Vašiček avait remporté la Coupe Stanley en NHL en 2006 et le titre de champion du monde 1 an plus tôt. L'attaquant Jan Marek et le défenseur Karel Rachunek, tous deux sacrés champions de Russie pour leur part, avaient eux été membres de l'équipe de République tchèque championne du monde en 2010. Quant à Pavol Demitra, un des meilleurs joueurs dans l'histoire du hockey slovaque, il était capitaine de sa sélection nationale lors du championnat du monde organisé au printemps dernier dans son pays. Le crash a fait ressurgir en République tchèque les souvenirs d'une autre catastrophe aérienne survenue le 8 novembre 1948 au-dessus de la Manche qui avait coûté la vie à 6 membres de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie d'alors.
Comme nous vous l'avions annoncé ces derniers jours, le deuxième congrès européen des professeurs de français a donc débuté ce jeudi à Prague. Pendant 3 jours, professeurs de français en provenance de toute l'Europe, spécialistes de la langue française et de l'éducation, entre autres, sont réunis dans la capitale tchèque. Parmi eux, le professeur Jean-Marc Defailly, professeur de français à l'université de Liège en Belgique et directeur de l'Institut supérieur des langues vivantes. Au micro de Radio Prague, Jean-Marc Defailly a expliqué les enjeux de ce type de congrès.
La première chose à laquelle je pense, c'est d'abord le plaisir de retrouver mes collègues d'un peu partout en Europe. Je crois que c'est une des fonctions essentielles de la FIPF, c'est de donner l'occasion à tous ces professeurs qui sont parfois isolés de se retrouver, d'échanger leur expérience, d'échanger leurs pratiques et surtout aussi de se réjouir d'être ensemble et de partager la même passion, enseigner le français dans leur pays, parfois dans des conditions difficiles.
Et quels seront les thèmes abordés lors de ce congrès? Vous-même allez tenir une conférence, est-ce que vous pourriez en parler?
Oui, les thèmes abordés sont multiples. Je ne peux pas les résumer ici, mais ça part dans toutes les directions, qui portent surtout sur les questions de l'actualité de l'enseignement du français en Europe, mais probablement aussi dans le monde. Quelle est la place de cet enseignement? Quelles sont les formes de ces enseignements? Quels sont les objectifs de ces enseignements? Il sera question de points de vue fort larges, comme des questions beaucoup plus techniques concernant les pratiques de classe, etc. Donc l'important maintenant pour le français, c'est de s'inscrire dans un monde plurilingue, un monde interculturel, et de trouver sa bonne place par rapport aux autres langues qui sont enseignées.
Et quel sera le thème que vous, personnellement, allez aborder?
C'est à peu près cela. La question que je pose, c'est quelles sont les responsabilités, quel est le rôle des professeurs de langues étrangères devant la mondialisation, devant la globalisation. Je pense qu'il faut que nous repensions à ce rôle et que nous lui donnons toutes ses dimensions. Nous ne sommes pas seulement des techniciens de la langue, nous ne sommes pas seulement des enseignants de la communication, nous avons un rôle de médiateur à jouer, de médiateur interculturel. Et tout ce que nous lisons dans la presse, tout ce que nous entendons à la télévision nous prouve qu'on a vraiment bien besoin de médiateurs culturels et interculturels. Et je pense que c'est notre responsabilité de former la prochaine génération de citoyens européens et de citoyens du monde à pratiquer cette interculturalité, à la concevoir, à la pratiquer, à la vivre au quotidien. Et je pense que si les professeurs de langues étrangères ne jouent pas le rôle de médiateur interculturel pour cette génération-là, je me demande qui va pouvoir le tenir et je serai alors très inquiet.
Pour vous, depuis la Belgique, où vous vivez et travaillez, avez-vous le sentiment que le français perd un peu de sa place, continue même à perdre, on pourrait dire, de son influence en Europe?
Il est clair qu'au niveau quantitatif, la place du français n'est plus la même que celle qu'elle occupait il y a ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années. Je ne vais pas seulement parler de l'anglais, mais je parle de tout le contexte, si vous voulez, de l'Europe. Et a fortiori le contexte de la globalisation et de l'uniformisation. Il y en a effectivement qui pronostiquent qu'à terme, seul l'anglais sera nécessaire pour mener des études internationales, que pour mener des affaires, mener une carrière diplomatique, etc. Et bien sûr, on s'interroge alors sur l'utilité des professeurs qui enseignent les autres langues. Mais je pense qu'au niveau qualitatif, et c'est surtout à ce niveau-là que je voudrais bien placer le débat, au niveau de l'humanité et pas au niveau du marché, on n'a plus que besoin de langues telles que le français qui véhiculent d'autres valeurs que les simples valeurs marchandes, commerciales, de rentabilité, de concurrence, etc. Donc je veux rester optimiste et dire qu'il y aura un après la globalisation. Et qu'il faut se tenir prêt, se préparer pour cette après-globalisation.
Voilà, c'était donc Jean-Marc Defailly, professeur de français à l'Université de Liège, présent à Prague dans le cadre du deuxième congrès européen des professeurs de français. Et c'est avec lui que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour suivre la rubrique touristique. À partir de cette semaine, nous vous proposerons, dans le cadre de cette rubrique, une découverte de l'univers des cafés pragois, toutes les époques et tous les styles confondus. Une fois par mois, nous pousserons les portes de l'un des cafés que vous ne devriez pas manquer lors de vos séjours à Prague. Notre série de reportages commence dans un café incontournable, presque mythique, de la capitale, le café Slavia. Un reportage de Magdalena Rozinkova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Jednou jsem si vyhlíd dámu za bárem uprostřed půlnočního ticha. Říkám, ať mě seznámí s tím lektvarem, co tak zručně celý večer míchá.
Le musicien et auteur Jiří Grossman, que vous venez d'entendre interpréter la chanson Barmanka, écrivait dans les années 1960 ses textes humoristiques et les paroles de ses chansons ici, au fameux Café Slavia. Situé depuis 1881 en face du Théâtre National, il était un lieu de rencontre idéal pour les artistes tout court, pour les comédiens ainsi que pour les romanciers, poètes et philosophes, sans oublier les peintres. L'écrivain et diplomate Jiří Grucha se souvient dans la préface d'un guide de café pragois.
À l'époque où le café coûtait une couronne 70, mon budget me permettait de boire quotidiennement au Slavia 6 consommations portant le nom de Turecka Kahva, le café turc. Je dois à cette habitude mes maux d'estomac et quelques amis. Il existait bien d'autres cafés à Prague, mais on ne pouvait pas y lire tous les journaux et les connaissances qu'on y faisait étaient moins marquantes.
Namíchejte nápoj lásky pro mě, ať se zítra nedočkám už nezdaru, u dívky, co bydlí u nás v domě.
Mandragora za Jakubské... Les poètes Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, le journaliste et critique littéraire Karel Taige ou encore le peintre et poète Jiří Kolář et le traducteur et chercheur littéraire Václav Černý. Voilà quelques-uns des célèbres clients du Slavia dans la première moitié du XXe siècle. Jiří Kolář et Václav Černý y avaient leur table préférée, située au-dessous du grand lustre avec un tube vert fluorescent en forme de cercle et qui est d'ailleurs resté inchangé jusqu'à ce jour. Autour de cette table se réunissaient dans les années 50 et 60 des personnalités éminentes de la culture tchèque opposées à la culture officielle. Josef Hiršl, Kamil Hoták, Zdeněk Sikora, Běla Kolářová, Jan Vladislav, Václav Boštík. C'est ici, au Slavia, que Václav Havel va rencontrer sa femme Olga. C'est ici que se réuniront les signataires et sympathisants de la charte 77. Le café Slavia est un des plus spacieux de la capitale. Il dispose de 300 places et les serveurs y font quotidiennement jusqu'à 20 km. Le matin, ils somnolent un peu. La majorité des clients sont confortablement installés dans la partie la plus convoitée du café, la partie fumeur d'ailleurs, celle qui donne avec de grandes baies sur le quai de la Vltava, la colline de Petřín et le château de Prague. D'autres places sollicitées se trouvent du côté de l'avenue Národní, en face du Théâtre National. Je m'installe avec le manager du café-restaurant Slavia, Lucie Kleknerová, en face du bar, au-dessous d'une immense pendule avec des néons qui évoquent, avec des meubles des années 30, l'ambiance de l'entre-deux-guerres. Lucie Kleknerová.
Les tables, les chaises, les lustres, la pendule, le plancher, tout cela est ancien. Nous ne faisons qu'entretenir et restaurer ce mobilier d'origine. Évidemment, quand il faut faire réparer quelque chose, une ampoule du lustre par exemple, c'est compliqué. Cela peut prendre plusieurs mois.
Teď vlastně kavárna funguje každý den.
Le café est ouvert à partir de 8h jusqu'à minuit. Les Tchèques viennent surtout le matin pour prendre un petit déjeuner d'affaires, par exemple, pour travailler, car ils peuvent se connecter au Wi-Fi. De juin à septembre, le public du Théâtre National, majoritairement tchèque, vient prendre un café ou un verre avant ou après le spectacle. J'aperçois aussi régulièrement des groupes de gens qui se donnent rendez-vous chez nous. Ce sont en général de vieilles dames qui s'assoient toujours à la même table, prennent un café et un dessert maison et bavardent. Sinon, nous accueillons évidemment beaucoup d'étrangers car le café est mentionné dans presque tous les guides. Ils sont nombreux pendant les vacances, au printemps et à l'automne. Certains touristes viennent juste pour visiter le café. Ils font le tour et s'arrêtent surtout devant le tableau « Le buveur d'absinthe ».
Ce tableau, créé en 1901 par le peintre tchèque Viktor Oleva, est en effet devenu le symbole du café Slavia, même si aujourd'hui on ne peut y admirer que la copie de la peinture originale. Piak Absinto exprime, tout comme les autres buveurs d'absinthe peints par Manet, Picasso ou Maignan, l'esprit fin de siècle. La boisson symbolique de cette époque, l'absinthe, est personnifiée sur le tableau d'Oliva par une jeune femme séduisante et démoniaque, une fée verte assise sur la table à côté du buveur désabusé. La fameuse fée verte figure-t-elle toujours au menu du café Slavia, Lucie Klecknerová?
Oui, nous servons par exemple du café à l'absinthe. Il s'appelle Café Slavia. C'est en fait un café viennois avec de la chantilly sur laquelle on verse un peu d'absinthe. Ou alors nous servons du champagne Bohemia Sect avec une goutte d'absinthe. Le spiritueux en tant que tel, nous le servons à la tchèque, c'est-à-dire avec une petite cuillère spéciale, une pelle à absinthe, sur laquelle on met un morceau de sucre trempé dans l'absinthe et on le fait brûler. On boit ensuite l'alcool avec du sucre caramélisé. Un petit verre coûte 80 couronnes. Les étrangers aiment l'absinthe plus que les tchèques. Il a toujours la réputation d'un alcool interdit.
Les Tchèques, en revanche, ont pris l'habitude de déguster au café Slavia des escargots.
On prépare un menu à base d'escargots pour le déjeuner du 24 décembre. C'est devenu une véritable tradition à Prague d'aller manger des escargots au Slavia à Noël. Même pour moi, qui ne suis pas originaire de Prague, c'était surprenant. On sert une soupe d'escargots à la crème fraîche et au thym, des escargots au beurre persillé et une brochette d'escargots au lard avec de la purée de pommes de terre.
Comme nous l'avons déjà dit, Lucie Klecknerová est manager du café-restaurant Slavia. C'est une société anonyme qui gère le café en tant que tel, ainsi que trois restaurants et bars qui se trouvent dans le même bâtiment au palais Lajanski. Il s'agit du restaurant du théâtre, Divadelní restaurace, où les gens viennent surtout pour les repas de midi et où ils peuvent suivre aussi des événements sportifs. Sur le quai Smetana se trouve le restaurant Parnasse, qui offre, tout comme le café Slavia, une vue magnifique sur le château de Prague. Il a une ambiance romantique et convient particulièrement aux fêtes de mariage. Enfin, le club Lajanski, situé au-dessus du restaurant Parnasse, est un bar d'étudiants de la FAMU, la célèbre école de cinéma de Prague qui jouxte le café. Lucie Klecknerová nous donne encore quelques précisions sur le menu du café Slavia.
Le café Slavia est un café-restaurant. Nous proposons des repas chauds, des spécialités de la cuisine tchèque comme la svíčková, du goulash ou du canard, aussi bien que des steaks, des poissons et des repas saisonniers, sans oublier des petits chocolats et des gâteaux maison. Il est vrai que la cuisine chaude n'est pas une tradition dans ce café. Il y a 10 ans, on ne proposait que des saucisses, des œufs, du fromage de tête et des chlebičky, donc des petits sandwichs tchèques, ainsi que de petits gâteaux ordinaires que l'on pouvait acheter partout, des vietrniky et des indiane, etc.
Le café Slavia revit vers 17h quand le pianiste Václav Švejdar s'installe devant son instrument au milieu du local. Dans la soirée, il est difficile de trouver une place libre au Slavia. Le café parle toutes les langues, on y mange, boit, fume et discute. La musique de fond est très agréable, mais ce n'est qu'un souvenir du passé, Václav Švejdar.
Je me rappelle que nous jouions du jazz au restaurant Parnasse. Cela fait longtemps déjà. À l'époque, j'étais bassiste. Dans les années 1960, on jouait dans tous les cafés de Prague. C'était des orchestres de 8-10 musiciens dans les grands cafés sur la place Venceslas et des trios ou des duos dans des cafés plus petits. Cela n'existe plus aujourd'hui. Vous savez, chaque café représente une ambiance et un espace différent. Moi, j'ai besoin d'être en face des clients, d'avoir un contact visuel avec eux pour voir dans quel état d'esprit ils se trouvent, s'ils sont venus écouter ou s'ils ne veulent pas être dérangés par la musique. En plus, je suis tout seul, je remplace tout un orchestre. Il faut que les gens aient l'impression d'entendre le violon leur raconter une histoire, la contrebasse. Le problème est que de tels arrangements pour piano n'existent pas.
Václav Švejdar et ses collègues pianistes jouent au Café Slavia tous les jours entre 17 et 23 heures. Je rappelle que le café, situé en face du Théâtre National, est ouvert dans la semaine à partir de 8 heures, les week-ends à partir de 9 heures et il ferme tous les jours à minuit. Plus d'informations au www.caféslavia.cz.
Voilà, et c'est la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité, préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.